Bonsoir et bienvenue dans l'écho de l'été. Comme chaque samedi de cet été, nous recevons un acteur important de l'économie ou un économiste pour essayer de comprendre ce que nous vivons et évoquer les enjeux qui sont devant nous. Depuis le début du mois de juillet, nous avons échangé successivement avec Christine Lagarde de la Banque Centrale Européenne, les dirigeants de Stellantis, Total et Sanofi, ainsi que des économistes. Et ce soir, l'écho de l'été, c'est avec elle, Aurélie Trouvé, économiste et porte-parole de l'ONG ATTAC. Bonsoir Aurélie Trouvé.
Bonsoir Dominique.
Nous allons répondre à mes questions, puis à celles de trois étudiants qui sont ici avec nous dans le studio. Aujourd'hui, ils viennent de la Sorbonne, de l'Institut de formation d'administration de Bastia et de l'Université de Rome.
L'écho de l'été, Dominique Seux, sur France Inter.
Alors merci Aurélie Trouvé d'être avec nous. Vous êtes enseignante chercheuse à AgroParisTech sur le plateau de Saclay, près de Paris, et bientôt, en tout cas, encore dans le centre de Paris, mais bientôt sur le plateau de Saclay. Et vous êtes spécialiste des questions agricoles et environnementales, ça tombe bien parce que nous avons décidé de parler avec vous du climat. Mais vous êtes aussi, et je l'ai dit, porte-parole d'ATTAC, une ONG que chacun connaît, anti-Walter mondialiste, hein, qui se situe plutôt à gauche, voire très à gauche. D'abord, est-ce que cette présentation vous convient? J'ai première question peut-être, est-ce que c'est un cas assez rare des économistes qui sont engagés dans un, non pas un parti, mais une organisation très militante, est-ce que les économistes ne risquent pas de perdre leur liberté académique quand ils sont engagés de cette façon?
En fait, en réalité, il y a beaucoup d'économistes engagés. À ATTAC, on est quand même beaucoup d'économistes, mais il y en a aussi dans les syndicats, dans les think tanks, comme les économistes atterrés, etc. Et puis de tous bords, d'ailleurs, j'ai envie de dire, le cercle des économistes, etc. Donc je crois que c'est important parce que l'économie est aussi une science sociale et on a des approches et on propose des choses en fonction aussi d'hypothèses et de visions, de valeurs qui peuvent être différentes. Je crois que c'est important de dire quand on fait de l'économie, on n'est jamais tout à fait neutre et objectif. On part avec des théories et des méthodes différentes suivant...
Le cercle des économistes, vous considérez que c'est très engagé, mais...
C'est engagé aussi, je pense, engagé aussi dans la vie, disons, politique, au sens de vie de la cité. Et bon, moi, par exemple, je suis dans une association qui s'appelle l'Association française d'économie politique, qui est une instance académique qui plaide pour une pluralité des approches en économie. Je crois que c'est ça qui est important, c'est le respect de la pluralité des approches en économie.
Il n'y a pas de contradiction entre l'indépendance académique et un engagement militant.
Alors, par contre, je fais la différence, milite en tant qu'ATTAC, voilà, et quand je suis dans mon travail en tant qu'enseignante chercheuse, je crois que c'est important aussi de faire la part des choses, effectivement. Par exemple, quand je discute de mon objet de recherche, qui est la politique agricole commune, je le fais comme enseignante chercheuse et pas comme militante.
Alors, voilà. Les choses sont dites. On va aller sur le fond des choses, et pour commencer, je pose la même question à peu près à tous les invités. Que nous a appris cette crise, au fond? Dans quel état sortons de cette crise? Est-ce qu'elle a été bien gérée par les pouvoirs publics ou de manière catastrophique? Quel est votre regard? Quelles sont les grandes leçons, au fond?
Pour moi, c'est une crise sanitaire, mais c'est aussi une crise, quelque part, du système économique actuel, dans le sens où les dégâts sociaux ont été, disons, aggravés par le fait que les services publics restent avec certaines limites. Je vois les hôpitaux publics, hein, ça fait des années que les soignants disent on a besoin de plus de moyens, dans la recherche publique aussi, et certains chercheurs sont montés au créneau, notamment en recherche médicale fondamentale, en disant nous aurions pu travailler bien davantage avec plus de moyens dans les 15 dernières années. Voilà, donc c'est une crise qui dénote aussi peut-être certains dysfonctionnements et la nécessité de mieux se préparer à l'avenir. Je pense aussi à la question de la mondialisation. On a découvert avec la crise sanitaire à quel point on pouvait être dépendant sur certains produits essentiels, par exemple des principes actifs de médicaments. Et puis on a vu aussi peut-être une puissance publique qui aurait pu réagir encore davantage, plus vite. Je pense par exemple aux masques et au fait de distribuer des masques gratuitement.
Bon. Mais l'État l'État a mis entre 200, 400 milliards, selon les façons dont on compte sur la table. C'est quelque chose d'inouï, d'ailleurs pas simplement la France. Hein. L'ensemble des pays développés occidentaux, dits libéraux, ont finalement... Alors je ne sais pas s'ils ont avalé leur chapeau ou ils ont été extrêmement pragmatiques.
Mais c'est ça qui est très intéressant, c'est que cette crise montre aussi que quand on veut, on peut. C'est-à-dire que finalement, on nous disait il n'y a pas assez d'argent public pour les crèches, l'éducation, la santé, etc. En temps normal. Puis là, on se rend compte qu'en fait, quand on veut, eh ben on peut. Et on va parler de la crise écologique. On pourrait se dire qu'il y a une urgence écologique, que c'est pas dans 10, dans 20 ans. Eh ben c'est aujourd'hui. Quelle impulsion budgétaire, quelle action publique, quelle action de l'État, quelle volonté publique il y a pour réagir concrètement et fortement à cette crise écologique. Je crois que la crise sanitaire nous dit qu'on peut. Voilà.
D'accord. C'est, quand il y a une grave crise, les sociétés développées et hyper développées peuvent tout à fait réagir. Bon, après, il reste quand même des questions d'aide publique. Qui va financer tout ça? Comment? Ça reste quand même une question ouverte sur la table.
Oui, alors nous, ce qu'on demande, on a un collectif hein, où il y a plein d'associations, d'attaques à Oxfam, des ONG environnementales, syndicales, etc., qui s'appellent Plus Jamais Ça. Dedans, on dit qu'on peut dégager aujourd'hui des moyens. Par exemple, on demande une taxation exceptionnelle sur le patrimoine des 1% les plus riches. Bon, il n'y a pas que nous qui le disons, hein, il y a aussi des économistes comme Piketty et d'autres, hein, sur des taxations sur les dividendes supplémentaires de certaines multinationales pendant la crise, qu'on peut aussi avoir une fiscalité plus importante, notamment en luttant davantage contre l'évasion fiscale. Donc il y a tout un tas de mécanismes qui permettraient de récupérer des recettes publiques, mais pas en se focalisant sur les ménages les plus précaires, mais au contraire en permettant en même temps de mieux partager les richesses. Donc la question des recettes, parce qu'on va reparler ce qu'il faut faire en matière de crise écologique, il faut effectivement des recettes publiques. Et je le dis parce que souvent c'est oublié, en fait dans la richesse nationale totale, la part qui est allouée, la part des recettes publiques est en diminution. Il y a de moins en moins dans la richesse nationale totale, il y a de moins en moins les recettes publiques, de recettes publiques sur le PIB est plutôt en régression depuis 30 ans. Donc,
Quand en France, la France est un des pays. Alors on va venir quand même tout de suite sur le climat. Mais,
La
France est un des pays où les prélèvements obligatoires sont les plus hauts du monde. Je crois qu'on bat absolument tous les records.
Alors si on s'intéresse simplement à la tendance en France, on est plutôt dans une diminution par contre, quand on fait la part des recettes publiques dans le PIB, sauf évidemment.
Les prélèvements obligatoires sont autour de 43-45% du PIB.
Je parle de. Bon, Mais sauf évidemment sur la dernière année, hein, on est d'accord.
Voilà. Absolument. Alors, venons-en au climat. La COP de Glasgow, hein, à l'automne, on a un peu le sentiment, quand on regarde les choses, que ça y est. C'est-à-dire les choses sont en train de s'enclencher. Alors, à la fois le climat est en train de s'emballer peut-être, mais la prise de conscience et l'action agit. Mi-juillet, la Commission européenne a présenté son plan Fit for 55, hein, en route pour le moins 55% d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, hein, par rapport à 1990. Des dizaines de projets de directives ont été annoncés. On va reparler de l'automobile, il y a des tas de choses qui se passent. On se dit, est-ce que ça y est, tout le monde est en route, y compris les acteurs privés. Est-ce que vous partagez ce diagnostic?
Alors, il suffit de regarder ce que vient de publier il n'y a pas longtemps le Conseil d'État qui demande à la France de mieux se soumettre aux objectifs de l'accord de Paris. Et encore, ça n'est que les objectifs de l'accord de Paris, puisque l'Union européenne vient encore d'augmenter les objectifs de diminution de gaz à effet de serre. Nous, on est sur moins 40% d'ici 2030. Et le Conseil d'État dit on n'y est pas du tout, ni le Haut Conseil pour le climat. Oui. Et en plus, l'Union européenne vient de nous dire qu'il faut encore faire mieux. Donc pour vous dire qu'en fait, on n'est pas du tout dans la trajectoire qu'il faudrait pour atteindre nos engagements dans l'accord de Paris et encore moins pour répondre à ce que demande aujourd'hui l'Union européenne en France et sans compter évidemment le reste du monde.
Vous êtes une spécialiste. On donne des chiffres, moins 55, moins 40, mais aujourd'hui, en 2020, on est à moins combien en émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990?
Vous me posez une colle, là, il faudrait que je reprenne exactement le...
C'était une donnée importante, quand même,
oui,
de
oui,
savoir
tout à fait.
Où on en est aujourd'hui.
Pardon, j'ai plus les...
On est de l'ordre de moins 21, moins 22, alors selon les critères. Hein. Donc en fait, il y a une partie du chemin qui a été faite.
Oui.
On émet en France et dans l'Union européenne beaucoup moins de CO2 qu'en 1990. Alors des tas d'explications peuvent être données. Il y a aussi des délocalisations dans le cas de la France, moins dans le cas de l'Allemagne. Mais une partie du chemin a déjà été faite. Donc ça, c'est
tout à fait.
Les acteurs l'ont fait. Mais évidemment, d'ici 2030, on est encore loin du compte. Là, on est forcément d'accord avec vous.
Oui, et puis alors, ce qu'il faut noter, c'est qu'en 2020, bon, il y a eu une diminution assez nette, mais qui est liée aussi à la crise de Covid. L'année d'avant, 2019, donc on dit souvent, on est à moins 1,7% sur 2019. Ouais. Mais en fait, c'est parce que les objectifs ont été réduits par la France elle-même. Normalement, on aurait dû être à moins 2,2. Enfin, tout ça pour vous dire que la France, par ailleurs, sur ses objectifs qu'elle se fixe, fixe elle-même n'est pas dans la trajectoire qu'il faudrait d'ici 2030.
Quelle est l'analyse de l'économiste que vous êtes quand on regarde les chiffres, on se dit, bon, l'Union européenne, c'est 10%, grosso modo, 10% des émissions de CO2 du monde. Quel est le poids d'un continent, d'un bloc comme l'Europe? Est-ce qu'on peut y arriver, en fait, en agitant nos petits bras et en sautant sur notre chaise?
Alors, comment... Oui, c'est la question de comment faire, quoi. Mais... Alors, juste avant de répondre à votre question, je voudrais revenir quand même sur le constat, parce qu'il y a un rapport du GIEC qui dit quand même certaines choses, ensuite pour parler de ce qu'il faut faire. Hein, mais je crois que c'est important de revenir au constat et ce que nous dit ce que nous disent ces hauts experts pour, ces experts pour le climat. Ils nous disent quoi? Ils nous disent que si on dépasse les 1,5 degrés Celsius, si on dépasse 1,5 degrés Celsius de réchauffement, il y aura, je cite, des conséquences graves pendant des siècles et parfois irréversibles. Voilà. Il nous dit aussi que, et ça c'est important, nous avons besoin d'une transformation radicale des processus et des comportements à tous les niveaux, individus, entreprises, institutions, gouvernements, et on doit redéfinir notre mode de vie et de consommation. Tout ça pour dire que, en fait, on a besoin, c'est bien dit ici, on a besoin d'une transformation radicale. Et donc là,
justement, prenons un exemple de transformation radicale. Que faut-il faire, par exemple, sur l'automobile? Les constructeurs automobiles ont présenté, le groupe Stellantis, le groupe Renault, ont présenté en juillet, fin juin et début juillet, des plans de transition électrique, donc beaucoup d'innovations. Est-ce que ça répond à la question ou pas pour vous?
Alors, moi, je ne suis pas une spécialiste, je le dis d'emblée, de l'industrie automobile. Simplement, on a bossé dans le collectif, justement, Plus Jamais Ça, avec des syndicats de salariés et des personnes qui travaillent dans le secteur automobile. Donc, ce qui est dit, d'abord, c'est que dans le secteur, on peut avoir une reconversion progressive, en tout cas vers déjà des véhicules moins polluants, évidemment. On pense à l'électrique, hein, mais il y a aussi des limites. Et puis aussi qu'on peut envisager une reconversion productive. Alors sur le long terme, par exemple, produire moins d'automobiles et de camions individuels et peut-être aller progressivement vers la production ou la production de transports en commun, des bus.
Mais est-ce que vous, Attac, vous dites aux Français, en fait, il faut vraiment prendre beaucoup moins. Vous aurez moins de voitures dans les années qui viennent, vous circulerez moins, il y aura moins de kilomètres. Et donc,
C'est un changement de mode de vie, effectivement, qui passe par une impulsion au niveau de l'offre, au niveau de l'industrie automobile. Et là, il y a quand même la question de qu'est-ce qu'on va faire de ces emplois qui sont dans l'industrie automobile. Donc nous, on plaide aussi pour une reconversion professionnelle très forte pour garantir l'emploi de ces salariés et pour que la reconversion écologique ne soit pas synonyme de destruction d'emplois. Ça me semble très important. Et là, moi, je pense un peu outre-Atlantique à ce qu'est en train de faire Joe Biden, qui est un peu influencé aussi par le Green New Deal radical de Sanders, Ocasio-Cortez et tout ça. Hein, et qui dit quoi? Qui dit il faut mettre sur la table beaucoup des investissements massifs, en l'occurrence l'impulsion budgétaire côté États-Unis pour le plan de relance est beaucoup, beaucoup plus important.
C'est ce que fait
France.
Aussi l'Union européenne.
Alors, pas du tout dans les mêmes proportions. Si on prend l'impulsion budgétaire, on est autour, je crois, des 13-14% d'impulsion budgétaire aux États-Unis quand on est à 3-4% en France et en Allemagne. Donc, ça n'est pas du tout le même effort budgétaire. Et surtout, il dit, on va essayer de créer des emplois via la transition écologique. Alors, en France, ça pourrait être dans la rénovation thermique des logements, dans les transports en commun, etc. Et pourquoi je dis ça, notamment sur les transports en commun, et je reviens à votre question sur l'automobile, c'est que, pour notre part, par exemple, à la taxe, on a été critique de la hausse sur la taxe sur les carburants, qui était un moyen de réduire l'utilisation de l'automobile. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, mais si on rend plus cher le carburant, il faut absolument qu'il y ait beaucoup plus d'alternatives en termes de transport en commun. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste avoir de l'écologie punitive, qui par ailleurs va surtout peser sur les plus précaires. Il faut qu'à côté, ils aient l'alternative, quoi. Et c'est-à-dire, c'est les transports.
Plus largement. Aurélie Trouvé. Plus largement, quel est le modèle d'économie vers lequel vous pensez, vous, à Attac, vous, Aurélie Trouvé, qu'il faut aller? Croissance, décroissance, décroissance de quoi? Quel est un petit peu le modèle auquel vous pensez?
Alors moi, je vais me reposer notamment sur un travail qui est réalisé par Negawatt. Hein, c'est une bombe, mais peu importe, il y a plusieurs collectifs d'ingénieurs qui travaillent sur ces questions-là. Mais qui, à mon avis, dit bien ce qu'il faut, c'est-à-dire à la fois de l'efficacité. Donc efficace, si on prend l'énergie, c'est l'efficacité énergétique, c'est la rénovation thermique des logements. La sobriété, il va falloir effectivement moins consommer.
Est-ce que vous prenez le mot décroissance ou pas? Parce qu'une partie des écologistes politiques et des économistes prennent le mot décroissance. Que dit Attac ?
Alors ça, c'est très important, c'est que...
Décroissance, ça veut dire aussi décroissance des revenus.
Voilà. Alors attention, parce qu'il faut, différencier la décroissance économique ou la décroissance énergétique. Donc là, je vais parler de décroissance énergétique. Oui, il faut absolument de la décroissance énergétique. Je vous donne un chiffre, hein, je suis désolée de vous embêter avec des chiffres, mais par exemple, bon, il y a des estimations qui disent qu'il faudrait garder à peu près 80% des réserves de combustibles fossiles dans le sol si on veut limiter le réchauffement à 1,5 degré Celsius. Bon, autant dire que on n'est pas du tout sur cette trajectoire-là. Donc, mais réduire la décroissance, évidemment, réduire la croissance énergétique, ça sera pas la même chose pour tout le monde. Parce que,
En fait, d'une certaine manière, à vous entendre, la façon dont vous parlez de la croissance et de la décroissance, je me dis, au fond, vous n'êtes pas très loin de la croissance verte. Une croissance dont le contenu en énergie serait différent. C'est ce que disent, je vais dire le mot, ce que disent la plupart des économistes dits mainstream. Vous n'en êtes pas très loin.
Nous, on ne fait pas de la croissance économique un objectif en soi. On dit ce qui est important, puisque la croissance économique depuis 30 ans, en l'occurrence, elle est plutôt allée vers plus de chômage, plus d'inégalités sociales et pas de réponse à la crise écologique. Donc, mais on dit simplement que ça ne doit pas être cet objectif-là, la boussole. Ça ne doit pas être la boussole. Ce qu'on dit, c'est que, par contre, il faut une décroissance énergétique, ça c'est sûr. Mais elle doit pas peser de la même façon pour tout le monde. Évidemment, il y a des gens qui aujourd'hui sont en précarité énergétique. On va pas demander aux plus précaires de réduire encore leur consommation énergétique. Au contraire, il faudrait peut-être qu'ils l'augmentent, qu'ils puissent se chauffer correctement et se loger correctement.
Non, mais pour résumer les choses, pardon. Vous dites aux Français qui nous écoutent, demain, il faudra acheter moins de biens, consommer moins de services, changer là aussi. C'est-à-dire, vous les aurez moins, aurez des choses différemment. Vraiment, une réponse un peu courte, parce que je voudrais qu'on dise deux mots de l'agriculture.
En fait, il se trouve que les 1% les plus riches, par exemple, ont des émissions de 60 tonnes de CO2 par an par personne, alors que les 50% les plus pauvres, c'est 4 tonnes. Donc, simplement pour vous dire que l'effort de réduction de la consommation matérielle et énergétique, elle va peser différemment, et surtout, effectivement, sur les populations les plus riches.
Donc, vous dites aux cadres, aux dirigeants, en fait, vous devez rouler moins, vous devez partir, je ne sais pas, consommer moins de biens.
On va en discuter.
La majorité des Français, ça ne changera rien.
Ça va changer quand même pour une majorité de Français, mais en leur donnant des alternatives qui fassent que on ne réduise pas leur bien-être. Je pense au transport en commun, d'avoir, vous qui prenez pour certains le RER, le bus, etc., que ce soit pas blindé, que les trains soient moins chers, etc. Donc, il faut qu'il y ait des alternatives à la voiture, par exemple, et il faut décliner ça dans l'ensemble des secteurs. La rénovation thermique des logements, aujourd'hui, il faut permettre notamment aux plus précaires d'y accéder et d'ailleurs, ça leur réduira les coûts aussi.
De votre point de vue pour l'énergie, que fait-on ? Énergie renouvelable, du nucléaire, encore un peu de gaz, quel est le modèle que vous préconisez ? Est-ce qu'en gros, à Attac, vous dites, et vous en tant qu'économiste, avant d'y trouver, vous nous dites, bon, le nucléaire, il faut s'en passer très rapidement, ou alors, il faut continuer à l'utiliser.
Non, on est pour une sortie progressive du nucléaire. Évidemment,
progressive, ça veut dire combien de temps ?
Ça veut pas dire comme ça. Alors là, je vais pas, parce que moi, par ailleurs, je suis pas non plus spécialiste de cette énergie nucléaire. Simplement, on dit qu'effectivement, ça va prendre 5, 10, 15, 20 ans sans doute, mais qu'il va falloir, par contre, dans le même temps, jouer à la fois sur, je le disais, l'efficacité, consommer moins parce que, par exemple, on rénove les logements, et puis la sobriété aussi, effectivement, avoir des modes de consommation
Une dernière question sur l'agriculture. Quel est le problème majeur pour vous du secteur agricole aujourd'hui, quelle est la solution qu'il faut apporter ? Alors, c'est vrai que vous êtes une spécialiste de ces questions-là aussi.
Le problème, c'est qu'il n'y a pas un problème majeur, il y en a plusieurs, mais si on prend juste la question environnementale, et c'est là qu'on voit qu'il n'y a pas que la question climatique qui est un problème. Par exemple, les indicateurs de biodiversité sur les surfaces agricoles sont en rouge, se dégradent. On a une pollution massive des milieux naturels qui fait qu'on est de moins en moins capable de respecter les directives européennes sur les nitrates, les phosphates, etc. Donc on a plusieurs crises écologiques liées à la pollution des milieux naturels, la biodiversité et les émissions de gaz à effet de serre. Et comment faire ? Aujourd'hui, il y a des modèles agricoles qui permettent de mieux respecter tout ça. Simplement, la question, c'est quelle politique ? Et là, il y a des propositions qui sont faites, c'est changer la politique agricole commune, notamment pour inciter à ces modèles...
Passer par la politique agricole commune pour revoir ça. Peut-être qu'une question viendra des étudiants qui vont, dans 2 minutes, 3 minutes, vous poser une question. C'est la fin de cette première partie. Et un peu de musique, et on vous retrouve immédiatement après.
Inter.
Et donc Aurélie Trouvé, toujours avec vous, et donc trois étudiants, et Clémence Maquet, qui est étudiante en gouvernance globale à l'Université de Rome et bientôt en sciences politiques à Saint-Pétersbourg, vous pose la première question.
Bonjour Aurélie Trouvé, ravie de vous rencontrer. On a parlé transition écologique, croissance, décroissance, énergie, mais ce qu'il y a derrière, c'est aussi l'entreprise, le secteur privé, qui est bien souvent celui qui mène l'innovation et qui conduit à des solutions. Zéro carbone, zéro déchet, zéro plastique, pour lutter contre le changement climatique et sortir de nos dépendances aux énergies fossiles, aux ressources non renouvelables. Donc c'est pas seulement celui qui ignore ou qui aggrave même le changement climatique. Et partant de là, à attaque, vos critiques ne sont-elles pas trop injustes ?
On est surtout pour une régulation beaucoup plus forte, pour justement amener à répondre aux objectifs. Donc, il s'agit pas de tout rendre public, évidemment. Alors, nous, on pense quand même que l'État doit reprendre la main sur les secteurs les plus stratégiques de l'énergie et du transport. Mais, en l'occurrence, on est aussi pour des aides ciblées, très conditionnées à certains secteurs, certaines entreprises, mais aussi pour jouer sur les financements. Par exemple, pour avoir un financement beaucoup plus ciblé sur les investissements à réaliser et permettre les désinvestissements nécessaires dans les secteurs les plus polluants, ou par une fiscalité écologique. Donc, il s'agit surtout de réguler bien davantage pour amener les comportements des entreprises à répondre à ces besoins écologiques et sociaux.
Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent que justement les écologistes sont contre le progrès et l'innovation ?
Là, pour le coup, le progrès et l'innovation, c'est quoi ? C'est de répondre urgemment à cette crise climatique et écologique. Et donc, il faut quand même changer radicalement de système, de politique économique pour y répondre, parce que, comme je l'ai dit, on n'est pas du tout sur la bonne trajectoire.
Et justement, la question de Clément, c'est, au fond, la solution, elle viendra quand même aussi des acteurs privés, et peut-être d'abord même des acteurs privés. Il n'y a pas grand-chose à réguler s'il n'y a pas eu de l'innovation qui vient du privé ou du public.
Bien sûr, mais je pense que la puissance publique peut être là pour, enfin doit être là pour les orienter. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, ça ne marche pas. Et je donne juste un exemple, c'est la fameuse neutralité carbone, c'est-à-dire que les grandes entreprises auraient une neutralité carbone à terme. Le problème, c'est que par exemple, une entreprise comme Total, quand elle annonce ça, elle dit qu'elle va aller vers la neutralité carbone, il n'y a rien pour vraiment le contrôler. Et par ailleurs, ça pose aussi plein de questions. Par exemple, pour une entreprise comme Shell, il faudrait mettre de la forêt sur l'ensemble des Pays-Bas pour qu'elle atteigne sa neutralité carbone. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, les solutions par les entreprises elles-mêmes ne suffisent pas dans un libre-marché. En l'occurrence, le libre-marché ne peut répondre à la crise écologique aujourd'hui. Donc on a besoin d'une impulsion, d'une incitation et d'une régulation publique beaucoup plus importante.
Et justement, ça pose aussi la grande question qui est de la confiance. Faut-il faire confiance à l'innovation technologique pour résoudre la crise écologique, la question climatique? Ou ne faudrait-il pas aussi plus s'appuyer sur l'intelligence humaine qui est finalement celle qui dessine des modèles de société, qui milite, qui passe à l'action, qui invente?
Bah, c'est pour ça que d'ailleurs je parle de l'État, mais en fait il y a beaucoup d'associations, de collectifs citoyens qui innovent énormément. Je pense par exemple à une entreprise comme une coopérative comme Enercop, où il y en a d'autres, hein, mais qui innovent aujourd'hui dans ces secteurs-là. Et il faut, à mon avis, plutôt un truc hybride qui permette aussi à tout ce secteur de l'économie solidaire et associative d'être partie prenante. Et vous parlez du privé, le privé c'est aussi ce secteur associatif et solidaire qui, de mon point de vue, n'est pas suffisamment soutenu et doit être par contre lié à une planification, une régulation publique beaucoup plus importante.
Bon, merci. Très bien, merci Clémence. Nicolas Barrette, qui est étudiant en philosophie à Paris-Sorbonne et qui est passé avant à Grenoble École de Management. Votre question, vos questions.
Bonjour Aurélie, merci beaucoup. On vient de parler un petit peu de technologie. Moi, c'est la question qui m'intéressait, c'est sous l'angle des inégalités qu'elles engendrent. On a vu que pendant la pandémie, les revenus des plus riches ont augmenté considérablement. C'était aussi le sens d'une des actions d'attaque début juillet à la Samaritaine. Ma question, c'est est-ce que si les technologies sont un outil clé dans la lutte pour le changement climatique, est-ce qu'on ne va pas aller dans le sens aussi d'une aggravation de ces inégalités?
Alors, est-ce que la technologie, c'est ça, aggrave les inégalités quelque
part?
Oui. Ouais. Moi, je pense qu'on a besoin des techniques et de la science pour y répondre, mais que ça ne suffira évidemment pas. Moi, je suis une scientifique, hein, donc voilà, je pense que on a besoin de la science, comme aujourd'hui face à la crise sanitaire, on a besoin des vaccins, voilà, c'est comme ça. Ensuite, c'est comment justement l'État planifie sur 5, 10, 15, 20 ans, notamment pour avoir une recherche publique en pointe sur toutes ces questions-là. Et je crois que la question de la recherche publique et des moyens qui sont alloués pour être dans la recherche publique, je peux en attester, cette question des moyens, elle est fondamentale pour pouvoir y répondre.
D'accord, donc c'est recherche publique plutôt que recherche privé, mais comment on réduit les inégalités qui vont être engendrées, notamment, je pense, dans le secteur du numérique. Il y a certaines prospectives un peu catastrophistes qui imaginent un monde séparé en deux, avec des très qualifiés, d'autres personnes complètement sous perfusion.
C'est intéressant que vous posiez cette question des inégalités au moment où on parle d'environnement, parce que précisément, la crise climatique est aussi liée aux inégalités sociales. C'est-à-dire que les premières victimes de la crise écologique, ce sont ceux qui n'ont pas les moyens de l'alimentation bio, qui n'ont pas les moyens d'habiter autrement que sous un aéroport ou enfin sous un passage d'avion ou à côté d'une autoroute, ou les travailleurs saisonniers dans les champs qui se tapent les pesticides, les émissions de pesticides. Donc ce que je veux dire, c'est que ces questions-là sont amplement liées, surtout que je l'ai dit, ce sont les plus riches qui, par leur mode de consommation aussi, émettent le plus de pollution. Comment y répondre, justement? C'est par la fiscalité, déjà, c'est ce qu'on met en avant, une fiscalité beaucoup plus redistributive, mais c'est aussi les services publics, parce qu'aujourd'hui, ces services publics, l'éducation, la santé, etc., c'est un accès de toutes et tous à des services fondamentaux, des besoins fondamentaux.
À votre sens, ça serait quoi la priorité? D'abord l'innovation technologique pour pour capter le carbone, pour répondre à l'urgence climatique, ou d'abord agir sur la question sociale comme étant le premier levier?
Je crois que ça n'est pas, c'est pas du tout incompatible.
Voilà,
je pense qu'il faut mener aussi une innovation technologique, mais sans en faire l'alpha et l'oméga. Par exemple, si je parle d'agriculture, il y a certainement des innovations techniques à mener, mais il y a aussi dans l'agroécologie, utiliser les savoir-faire parfois historiques des paysans pour avancer sur des meilleurs liens avec les écosystèmes, une meilleure adaptation des pratiques aux écosystèmes qui passent pas forcément par l'innovation technologique telle qu'on peut la comprendre aujourd'hui.
Donc il y a des gros enjeux de formation et de redistribution peut-être des savoirs. J'ai l'impression que c'est une question liée à la propriété, peut-être derrière, en fond.
Alors, c'est une très bonne question aussi, c'est la question de la propriété intellectuelle. À ATTAC, on est pour la régulation des échanges de biens, de capitaux, une régulation beaucoup plus forte, mais par contre, on est pour une libre circulation des connaissances, et on pense que notamment sur l'écologie, il faut absolument un transfert technologique sur les techniques les plus propres qu'on peut avoir, nous, au Nord et dans les pays riches. Il faut absolument qu'il puisse y avoir ce transfert. Et donc, nous, évidemment, on plaide pour une levée des brevets, en tout cas, dès lors que ça peut permettre, justement, une reconversion écologique.
Dernière question, au pluriel, évidemment. Alice Chélan, qui est diplômée de Sciences Po, ex, qui est diplômée aussi de l'Institut Régional d'Administration de Bastia, et qui est aujourd'hui fonctionnaire au ministère des Armées.
Bonjour Aurélie Trouvé.
Bonjour.
J'aimerais rebondir sur une thématique qui a été évoquée tout à l'heure, celle de la décroissance.
Ouais.
Au fond, j'ai l'impression que c'est une idée qui peut apparaître comme une idée très occidentale. Quand on sort du prisme de l'Hexagone, on se rend compte assez facilement que la croissance, c'est un besoin de la majeure partie de l'humanité. Est-ce que vous pensez pas qu'au fond, la croissance, c'est le sens de l'histoire? Et si c'est le cas, comment est-ce qu'on concilie croissance et préservation de l'environnement?
Alors, je le redis, hein, ce qui est certain, c'est qu'au niveau global, au niveau de la planète, on va avoir besoin forcément de réduire notre consommation énergétique. Et quelque part, ça a été dit, c'est dit par le GIEC, hein, il faut bouleverser nos modes de consommation. Mais comme vous dites, c'est avant tout dans les pays riches, ou les pays émergents, on va dire, et dans les populations les plus riches du globe, que cet enjeu va se jouer. Évidemment qu'on va pas demander à un paysan burkinabé qui a à peine de quoi se nourrir, de changer son mode de consommation. C'est pour ça, d'ailleurs, que je rebondis sur le fait qu'il y a un vrai lien entre crise environnementale et inégalité sociale, effectivement. Alors ensuite, je le dis aussi, c'est ATTAC, on est altermondialiste, c'est-à-dire qu'on plaide pour une solidarité internationale très forte et notamment donner les moyens aux pays du Sud, qui sont les premières victimes du réchauffement climatique, mais les moins responsables, les moyens de s'y adapter. Voilà.
Enfin, quand on regarde la Chine, c'est aujourd'hui la Chine.
Oui, alors je dis pays du Sud, pays les plus pauvres, pardon, parce qu'effectivement,
ouais.
Non, je suis tout à fait d'accord. Quand je dis pays du Sud, je vais un peu trop vite. C'est pays les plus pauvres, voilà.
Comment est-ce qu'on fait justement pour demander aux pays émergents? J'ai regardé les chiffres. Le Nigeria aujourd'hui, c'est 211 millions d'habitants. Le Vietnam, 98. Le Pérou, 33. Et comment est-ce qu'on peut demander aux populations de ces pays de modifier leur mode de consommation? Comment est-ce qu'on peut leur vendre l'idée de sobriété que vous évoquiez tout à l'heure?
Mais je pense que ça s'adresse d'abord aux pays riches et émergents. Hein, ce qu'on est, d'ailleurs, on demande les négociations internationales s'adressent d'abord aux pays les plus responsables de ce réchauffement climatique. Et en ce qui concerne ces pays pauvres, c'est avant tout la question de leur adaptation, parce que c'est eux qui vont en souffrir le plus. Donc évidemment, il ne s'agit pas de dire que tout le monde va faire le même effort. Et là, on s'adresse au secteur et aux pays les plus polluants, quoi. Voilà.
Et vous évoquiez tout à l'heure la décroissance énergétique. Il y a 840 millions de personnes, si je m'abuse, qui n'ont pas accès à l'électricité dans le monde aujourd'hui. Mm-hmm. Est-ce que le nucléaire, finalement, c'est pas une solution, la solution la plus propre pour amener l'énergie à ces populations qui n'en disposent pas?
Alors, le nucléaire pose un certain nombre de problèmes. C'est pour ça aussi qu'il y a des pays comme l'Allemagne qui passent aussi par, en tout cas, qui essayent d'avoir une transition vers d'autres types d'énergie. Je dis pas non plus que l'Allemagne est complètement vertueuse, mais voilà.
Ils ont eu raison d'arrêter le nucléaire.
Alors, le problème ensuite, c'est qu'il faut coupler l'efficacité et la sobriété à ça, plus le développement des énergies renouvelables. Sinon, la conséquence, c'est quoi? C'est qu'on va importer encore plus d'énergie. Mais ouais. Finalement,
ils ont eu raison ou pas? Ou c'était une erreur? Parce que
je pense qu'ils ont raison, mais simplement, ils doivent. Il faut qu'ils fassent.
L'Allemagne pollue beaucoup, beaucoup plus que la France.
Ce n'est pas suffisant.
C'est combien d'émissions de CO2 aujourd'hui, la France, grosso modo?
Je pense que le problème, c'est que, certes, ils arrêtent le nucléaire petit à petit, mais qu'il faut qu'ils couplent en même temps la question de l'efficacité, de la sobriété et le développement des énergies renouvelables.
L'Allemagne émet 50% de plus de CO2 que la France.
Oui, c'est pour ça que je vous dis que tout n'est pas vertueux dans l'Allemagne. J'ai bien dit qu'il y avait certaines limites à ce. Mais en l'occurrence, sur le nucléaire, bon, il y a d'abord des coûts financiers importants, il y a des coûts environnementaux et des coûts aussi pour. Des risques très importants, notamment liés à la question des déchets nucléaires, bien évidemment. Bon, donc, il y a tout un tas de problèmes qui se posent sur l'énergie nucléaire qui nécessitent aujourd'hui cette sortie progressive. Ça ne veut rien dire. Simplement, je dis sur le modèle allemand, ça n'est pas suffisant non plus de décréter ça. Il faut coupler tout un autre modèle énergétique.
On pourrait continuer à en parler des heures, et vous avez raison d'être passionné. C'est la fin de cette émission. Ouais, merci Aurélie Trouvé. Je crois que vous sortez un livre au mois de septembre qui s'appelle Bloc Arc-en-Ciel, chez quel éditeur ?
La Découverte.
La Découverte. Voilà. La semaine prochaine, nous recevrons l'économiste Isabelle Méjean, spécialiste de la mondialisation. Il me reste à remercier Théo Raison, notre réalisateur, Thomas Langlais, à la technique, et l'équipe du Cercle des économistes, avec qui nous avons sélectionné les étudiants qui sont avec nous. Étudiants que je remercie également. À la semaine prochaine.